Septembre 2001, qui marqueront à jamais l'histoire des temps modernes, ayant fait près de 3000 victimes, une crise financière en 2008, ayant peut-être fait des millions de chômeurs dont vous avez peut-être fait partie, vous avez peut-être eu du mal à trouver du boulot à cause de cette crise financière. Si Dieu existe, pourquoi ? Mais pourquoi n'intervient-il pas dans le monde ? Pour éradiquer les maladies qui tuent nos amis, les cafards qui envahissent mon appartement en ce moment, les maladies qui tuent les membres de notre famille, qui ont tué ma mère il y a une vingtaine d'années, et qui nous tueront peut-être un jour. Pourquoi ?
Pourquoi ?
Derrière ces questions, qui reviennent d'une certaine manière à demander à Dieu de rendre des comptes, avez-vous conscience qu'il y a une présupposition, un postulat majeur et dangereux ? Et cette présupposition, ce postulat, c'est le suivant en fait. Dieu devrait intervenir dans le monde, dans l'histoire, selon mes exigences et mettre en œuvre le même plan que moi pour sauver le monde. C'est un peu comme si en posant ces questions, je disais « Voilà moi ce que je ferais si j'étais toi, Dieu !» Mais le problème, ou plutôt la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas Dieu, pas moi en tout cas. Et là, je ne peux résister au plaisir d'attirer votre attention sur un film qui m'a réconcilié avec Jim Carrey, Bruce Tout-Puissant. Je déteste Jim Carrey. C'est lui qui a fait Marie à tout prix ? Il n'a pas joué ? Fou d'Irène. On était trois dans la salle, on était avec un copain, on s'est barré. Mais Bruce Tout-Puissant m'a réconcilié, je dois dire, avec le Truman Show, avec Jim Carrey. Bruce Tout-Puissant, pour ceux qui n'ont pas vu le film, raconte l'histoire d'un journaliste, Bruce Nolan, qui travaille pour une chaîne de télé locale. Et Bruce Nolan a tout pour être heureux, si vous... Vous avez vu le film, vous le savez, ses reportages sont assez drôles et originaux. Il vit avec une fille qu'il aime, mais tout bascule le jour où il apprend qu'il n'a pas décroché le job de ses rêves, devenir le David Pujadas de sa chaîne de télévision locale, le présentateur de journal vedette. Et c'est alors qu'il commence à remettre en question la justice de Dieu, et à contester la façon dont Dieu gère le monde. Et Dieu lui lance alors un défi dans le film. Vous vous rappelez ? Il lui propose d'avoir tous les pouvoirs, d'où le nom du titre du film, Bruce Tout-Puissant, de diriger le monde. En fait, Dieu propose à Bruce Nolan, d'être Dieu. Alors on le voit répondre aux prières, à la machine à écrire, ne plus se coucher, et le résultat est catastrophique. Est-ce que vous comprenez, mes amis, que le problème, ou plutôt la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas Dieu, et que son plan pour sauver le monde est peut-être radicalement différent du nôtre. Tellement différent, que ce plan de salut pour le monde a été malheureusement rejeté, méprisé, quand Dieu est intervenu personnellement dans l'histoire pour l'accomplir. Et c'est un peu ce que le prophète Ésaïe, que nous étudions en ce moment, va nous dire dans la seconde strophe du quatrième chant du serviteur. Quatre chants du serviteur, vous vous rappelez ? Nous sommes en train d'étudier le quatrième chant du serviteur, composé de cinq strophes. On peut comparer ce chant à un poème. Hier, nous avons vu un peu le prologue dans lequel Ésaïe va planter le décor. Il va nous dire que la sagesse de Dieu va confondre la sagesse des hommes, vous vous rappelez ? Pour Keith qui nous a rejoint hier soir. Salut Keith. Au travers d'un serviteur, vous vous rappelez, élevé, oui. Pourquoi a-t-il été élevé ? Parce qu'il a été défiguré. Pourquoi a-t-il été défiguré ? Parce qu'il a été sacrifié, apparemment. Et c'est au travers de ce serviteur que la sagesse de Dieu, en fait, va confondre la sagesse des hommes. Toute tentative de se sauver par soi-même, c'est au travers de son serviteur que Dieu, en fait, va régler le problème qui nous concerne tous, le problème du péché qui nous sépare de Dieu et qui peut nous séparer de Dieu pour l'éternité. Et après avoir résumé son poème dans une sorte de prologue, Ésaïe va maintenant attirer notre attention sur la naissance du serviteur et sur son lot quotidien. Un serviteur apparemment, comme nous allons le voir, apparemment insignifiant, au travers duquel Dieu va accomplir son plan de salut. et révélait sa puissance. Et c'est un peu l'idée principale que j'aimerais que nous retenions ce matin, c'est que la puissance de Dieu va s'accomplir dans la faiblesse. On lit ensemble les trois premiers versets du chapitre 53 d'Ésaïe. On progresse dans notre ascension du mont Everest. C'est demain qu'on atteint le sommet, préparez-vous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. J'espère que vous commencez à voir le contraste dans ces versets entre d'un côté la faiblesse apparente du serviteur et la puissance de Dieu déployée au travers de ce serviteur. C'est ce que j'aimerais voir avec vous en trois temps. Et je vous rappelle que le plan de ces interventions se trouve dans vos livrets généraux. Premièrement, nous allons voir que le peuple a été incrédule, un peuple incrédule au verset 1. Deuxièmement, nous allons voir un serviteur apparemment insignifiant. Et troisièmement, nous allons voir que ce serviteur va être inconsidéré. Premièrement, donc regardons encore ensemble le verset 1. Un peu surprenant et mystérieux. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Pour comprendre ce que Ésaïe est en train de dire, est-ce que vous avez remarqué le lien entre ce premier verset et le dernier verset du chapitre précédent? Verset 1. Qui a cru à notre annonce, littéralement? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ou à ce que nous avons annoncé, selon vos versions? À qui le bras, on peut aussi traduire la puissance, à qui le bras ou la puissance de l'Éternel s'est-il révélé? C'est une question rhétorique, n'est-ce pas? Le mot rhétorique s'écrivant avec le H après le R, merci, et non pas après le T, merci, je ferme la parenthèse. Question rhétorique, n'est-ce pas? Il y a un point d'interrogation dont la réponse pourrait être. Qui a cru? Réponse? Personne, ou en tout cas très très peu de monde. Dans ce verset, je pense qu'Ésaïe est en train de nous montrer le serviteur, non plus au travers des yeux des rois, vous vous rappelez hier, Ésaïe faisait référence aux rois et aux nations, là il n'est plus en train de nous montrer le serviteur à travers les yeux des rois et des nations qui ont vu et compris le message annoncé, mais Ésaïe est en train de nous montrer le serviteur à travers les yeux de qui? Je pense au travers des yeux du peuple d'Israël. Des Israélites, est-ce que vous avez remarqué le passage du « il » au verset 15, au « nous » au verset 1? On est passé au « nous », à la première personne du pluriel. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Un peuple qui a compris et annoncé le message du serviteur, mais qui a fait preuve d'une grande incrédulité à son égard dans le passé. Et il me semble que dans ce verset, Ésaïe est en train de méditer sur ce passé. À qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Mais comment croire? Mettons-nous à la place d'Ésaïe, du peuple d'Israël à qui on a annoncé ces choses. Mais comment croire? Comment que Dieu puisse révéler son bras, sa puissance, au travers d'un moyen aussi faible et insignifiant que celui décrit au verset suivant? Regardez le verset 2. Et au passage, avez-vous remarqué comment les choses s'enchaînent à merveille? Verset 2. Il, le serviteur, s'est révélé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Vous avez remarqué le lien entre les deux parties? Pourquoi le peuple n'a-t-il pas cru au serviteur? Parce que le serviteur était apparemment, mais complètement insignifiant. Complètement insignifiant. C'est la raison de son incrédulité. Et dans l'histoire d'Israël, à quoi fait référence ce bras, selon vous? Ou cette puissance? Je vais vous lire juste quelques versets, rapidement. Ésaïe, chapitre 51, des versets 9 à 11, et vous allez me dire ce que vous en pensez. « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi, comme au jour d'autrefois, au temps des générations passées. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre ?» À quoi fait référence le bras de l'Éternel, selon vous? Dans le livre d'Ésaïe et en fait dans l'Ancien Testament. À quoi? Au jugement? Qui s'est abattu à quel moment? Ouais. À quel moment de l'histoire d'Israël fait référence Ésaïe 51? Ouais, la sortie de l'Égypte, ce qu'on appelle l'Exode. Le peuple était en esclavage dans le pays d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu dans l'histoire pour libérer son peuple de l'esclavage. Et en théologie biblique, on dit que là, Dieu a en fait manifesté son bras, sa puissance pour le faire. Je pense que le bras de l'Éternel fait donc référence vraiment à Dieu lui-même, à la puissance qu'il a déployée le jour de l'Exode, le jour où il a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. Mais est-ce que vous avez remarqué le contraste vraiment saisissant entre cette puissance, ce salut, et la faiblesse apparente du serviteur dont Dieu va apparemment se servir pour sauver son peuple? Regardez encore le verset, c'est un serviteur qui est Dieu lui-même, je pense, mais qui est à la fois distinct de Dieu. Ça vous rappelle quelque chose? Regardez le verset attentivement. Il s'est révélé, il s'était élevé devant lui. Devant lui. Le serviteur l'avait présenté, certes, comme Dieu lui-même, mais aussi de manière distincte de lui. Il était devant lui, vous voyez? Une identification pleine et entière à Dieu, mais une certaine distinction, ce qui peut nous faire penser à la doctrine de la Trinité. Un seul Dieu, une seule nature, qui est en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont toutes les trois dieux. Un rejeton, une jeune pousse, un bourgeon fragile, une racine sortant d'une terre sèche, aride, assoiffée et donc menacée par la mort. On peut penser aussi à la naissance de Jésus qui s'est fait dans des circonstances particulières. Et vous vous rappelez comment Jésus a été menacé de mort aussi lorsque Hérode, en fait, a ordonné, vous vous rappelez, dans le livre de Matthieu, l'exécution de tous les premiers-nés. Un homme qui n'attire l'attention de personne, qui ne paye pas de mine, on dirait aujourd'hui, et qui n'inspire guère confiance. Alors comment croire? Mais comment? Bon sang, mais comment croire que Dieu puisse révéler sa puissance, sauver son peuple, au travers d'un serviteur aussi insignifiant? Comment? Comment peut-il être à l'œuvre de cette manière, en vue d'un nouvel exode? Non pas en vue de la libération l'esclavage d'un pays, mais en vue de la libération de la mort et du péché. Comment c'est possible? C'est pas possible. Est-ce la façon dont Dieu va intervenir dans l'histoire? Pour sauver son peuple, comme il a fait en Égypte? C'est ça? Dans la faiblesse? C'est ça? Eh bien, c'est exactement la façon dont Dieu va intervenir, pour sauver son peuple. C'est exactement la façon dont il va révéler sa puissance dans la faiblesse. La puissance de Dieu révélée dans la faiblesse, dans quelques grammes de chair humaine, dans un monde de brutes, à travers un nourrisson, un bébé, qui deviendra finalement un homme inconsidéré. C'est l'objet de mon troisième et de mon dernier point. Premièrement, un peuple incrédule. Pourquoi un peuple incrédule? Parce que le serviteur est apparemment insignifiant. Comment croire en un serviteur insignifiant? Et quelles sont les conséquences de cette incrédulité? Réponse dans le verset 3. La Bible est bien faite, non? Dieu est bien fait, surtout. C'est vrai qu'il n'est pas fait. Il est tout court. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Un serviteur inconsidéré. Vous avez remarqué, hein, après avoir confessé l'incrédulité d'Israël, qui n'a pas cru au serviteur parce qu'il était apparemment insignifiant, Ésaïe révèle maintenant les conséquences de cette incrédulité. Et quelles sont les conséquences de cette incrédulité? Regardez encore le verset 3 et notamment les adjectifs. Il a été, ou plutôt les parties passées, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, comme nous l'avons chanté hier matin. Vous vous rappelez? Peut-être méprisé à cause du mépris subi, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Vos versions ont peut-être devant celui devant qui, en fait, on tourne le regard. Il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Alors je vais utiliser un exemple qui va peut-être vous choquer, excusez-moi. Mais le serviteur est un peu comparable, oserais-je le dire, à une dame pipi. Vous savez ce que c'est une dame pipi? À une femme de ménage qui fait un travail hyper important au McDo ou à Quick par exemple, qui est préposée au nettoyage des toilettes dans un lieu public. Mais le serviteur est un peu comparable à une dame pipi ou à l'employé municipal qui balaye notre rue une ou deux fois par semaine. Et auquel, comment dire, on ne prête pas toujours attention. Quand je suis sorti de chez moi, lors de ces trois ou quatre dernières années à Lyon, il y avait un monsieur qui passait le balai dans la rue, Franchement, parfois, je le voyais à peine, quoi. Pourtant, il faisait un travail important. Il était en train de balayer les feuilles du trottoir, ce qui est très utile, surtout en automne, pour ne pas glisser. Vous voyez, le serviteur est un peu comparable à ce genre de serviteur dans le domaine public. Des personnes qu'on fait parfois semblant de ne pas voir. Des personnes qu'on a tendance même à mépriser parfois. Et qui pourtant font un travail important. Comment croire ? Mais comment croire que Dieu puisse révéler sa puissance au travers d'une dame pipi, d'un balayeur ? Comment ? D'un serviteur, mais complètement inconsidéré, méprisé, abandonné des hommes. Comment est-ce possible ? Est-ce la façon dont il va intervenir dans l'histoire pour sauver son peuple ? C'est comme ça qu'il va venir ? Eh bien oui, c'est exactement la façon dont il va venir, en envoyant son serviteur, qui, vous le savez, n'est autre que, absolument, que le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui est, je cite Jean chapitre 1, verset 11, qui est venu chez les siens, qui est né en tant que juif, dans le peuple juif, qui est venu chez les siens, qui ne l'ont pas reçu, qui a été trahi, et relisez les évangiles, notamment les derniers chapitres des évangiles, trahi, renié, giflé, battu, et qui, au paroxysme de sa faiblesse, a été crucifié pour nos péchés. L'historien romain Tacite fait référence à la crucifixion et qualifie ce phénomène de supplice le plus honteux. C'était la honte, quoi. La honte de l'histoire passée. Vous comprenez la force de ce passage ? Comment croire que Dieu puisse révéler sa puissance au travers d'un serviteur non seulement inconsidéré, mais aussi crucifié, publiquement humilié, mais c'est aberrant, invraisemblable, abracadabrantesque, pour reprendre l'adjectif néologisme d'un ancien président de la République française. C'était Jacques Chirac. Et c'est un peu ce que pensent mes amis musulmans, et je pense que Lies et Mourad pourront vous le confirmer, c'est un peu ce que pensent mes amis musulmans quand j'essaye tant bien que mal de leur expliquer, bien faiblement, bien maladroitement, le sens de la mort de Jésus. Pour eux, il est inconcevable, mais impossible de croire que Jésus a été cloué sur une croix. Pourquoi ? Parce qu'ils vous diront notamment que cela reviendrait à rendre Dieu faible et incapable de protéger son prophète qui a été cloué sur une croix. On ne peut pas croire en un Dieu comme ça. Ce n'est pas possible pour mes amis musulmans. Et pour des raisons différentes, l'apôtre Pierre, dans les évangiles, a également considéré que la mort de Jésus était complètement inconcevable. Vous vous rappelez ? Écoutez, c'est un peu sa réaction que je vous lis quelques versets seulement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, versets 21-23, après la confession de Pierre, en disant à Jésus « Tu es le Christ ». Et voici un peu comment Pierre réagit quand Jésus va lui expliquer en fait que le Messie doit souffrir, mourir et ressusciter. Je suis dans Matthieu au chapitre 16, juste les versets 21 à 23. Jésus commençait dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Donc prophétie de sa mort et de sa résurrection, ou annonce en tout cas. Pierre le prit à part et se mit à lui dire, en lui faisant des reproches ainsi, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Intéressant. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Comment auriez-vous réagi à la place de Pierre ? La puissance de Dieu dans la faiblesse. Un peuple incrédule parce que le serviteur va être apparemment insignifiant. Conséquence de cette incrédulité, eh bien un serviteur inconsidéré. La puissance de Dieu au travers de la faiblesse. Alors j'aimerais essayer d'appliquer ces versets à nos vies de deux manières pour finir. En vous racontant une histoire. Est-ce que vous aimez les histoires ? Oui, je le savais. Est-ce que vous connaissez certainement cette histoire, mais je ne résiste pas au plaisir de vous la narrer une autre fois, encore. C'est l'histoire d'un randonneur très expérimenté qui emprunte un chemin difficile avec des passages d'escalade, un peu comme ce que nous allons faire dans quelques minutes. Non, je vous rassure tout de suite, hein. Vous pouvez y aller en tongs. Pieds nus. Cette histoire, donc, raconte les péripéties d'un randonneur qui emprunte un chemin difficile, qui commence à glisser sur une pente herbeuse, ce qui va peut-être vous arriver tout à l'heure, hein, qui va tomber dans le vide, je ne vous le souhaite pas, et qui va devoir sa survie à une branche à laquelle il s'accroche. In extremis. Et là, notre ami est peu habitué à prier, mais il est mal en point. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh bien, d'appeler à l'aide. Et là, il ravale son orgueil, il dit, ok, il y a quelqu'un là-haut? Quelques secondes se passent, et la surprise, une voix lui répond, ben oui, il y a moi, Dieu. Là, notre ami réfléchit, ok, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, Dieu répond, oui, je peux t'aider, hein. Fais-moi confiance, lâche la branche. Et là, notre ami réfléchit quelques secondes, il réfléchit, il réplique. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-haut? C'est marrant, Pénélope. Deux pistes d'application pour finir, mes amis. Surmonter l'incrédulité, ça fait l'objet des deux derniers slides, merci Johan. Surmonter l'incrédulité et confiance en la puissance. Surmonter l'incrédulité. L'histoire de ce randonneur pourrait peut-être être celle des aïeux du peuple d'Israël, vous vous rappelez, qui a fait preuve d'une certaine incrédulité en raison d'un serviteur apparemment insignifiant. Et on apprend donc que Dieu allait révéler sa puissance dans la faiblesse. Donc l'histoire de ce randonneur pourrait très bien être celle des aïeux, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cette histoire pourrait peut-être être la mienne en fait. La mienne. Quand je remets en question la façon dont Dieu gère ma vie, quand je remets en question sa puissance, sa souveraineté, son plan, sa stratégie pour sauver le monde, qui parfois me surprend au plus haut point, qui ne correspond pas du tout à ce que moi j'aurais fait, mais qui correspond à ce que Dieu fait. Un plan, une stratégie tellement invraisemblable aux yeux des hommes, que la plupart d'entre eux a refusé d'y croire il y a 2000 ans. Refuse d'y croire, et vous faites peut-être partie de ceux qui refusent encore de croire à cette stratégie extraordinaire, je ne sais pas. Alors comment faire pour surmonter cette incrédulité, que je distingue du doute, l'incrédulité étant vraiment une décision consistant à ne pas croire, le doute étant différent. Deux pistes pour nous aider, pour m'aider moi le premier. La première c'est confessons humblement notre incrédulité devant Dieu. Est-ce que vous avez déjà confessé votre incrédulité devant Dieu, qui sait toutes choses, de toute façon il est omniscient, il sait ces choses. Confessez votre incrédulité devant Dieu. Et supplions-le, comme le fait cet homme dans les évangiles, de venir au secours de son incrédulité. Marc, chapitre 9, verset 24. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Reconnaissons humblement que nous sommes parfois tentés par l'incrédulité. Reconnaissons-le humblement. Deuxièmement, consultez. Consultez les Écritures, et notamment les passages du Nouveau Testament, comme nous avons fait hier, pour comprendre que le serviteur fait partie intégrante du plan, de la stratégie de Dieu pour sauver son peuple. Est-ce que vous avez déjà consulté les Écritures, lu les Écritures, la Bible, certains passages, pour comprendre? Comme Pierre, par exemple, après son rétablissement dans sa mission, que Jésus a en fait été désigné d'avance. Avant le fondement du monde, 1 Pierre chapitre 1 verset 20, ça c'est pour ceux qui préparent une étude sur Pierre. Pour mourir une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Comprenez comment le Nouveau Testament nous révèle en fait que Jésus fait partie intégrante du plan de Dieu. C'est sa puissance pour le salut de quiconque croit au travers de la faiblesse. Surmonter l'incrédulité. Confessant humblement notre incrédulité, en consultant les Écritures, pour fortifier notre foi dans la puissance de Dieu au travers de sa faiblesse. Dernière application, confiance en la puissance. Il y a quelques années, la chaîne M6, la petite chaîne qui monte, c'est en tout cas comme ça qu'on l'appelait dans les années 80, exactement, quand on était des jeunes. Je vous parle d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Que j'arrête. Il y a quelques années, la chaîne M6... qui a donné naissance notamment à la chaîne W9. Hein. En fait, W9, c'est l'inverse de M6. Hein. Le M à l'envers. Et oui, attention, hein. C'est ça, ouais. Si vous ne le saviez pas, c'est pas grave, votre vie n'en dépend pas. Hein. Je vous rassure tout de suite. Il y a quelques années, la chaîne M6 a contacté notre cher David Brown, qui à l'époque était secrétaire général des GBU, l'équivalent de Mourad, en Algérie. Et en fait, la chaîne M6 souhaitait faire un reportage sur les évangélistes. Ah, les évangélistes. Donc le journaliste a demandé à quoi consistaient les activités des GBU. C'est une histoire vraie que j'ai demandé à David de vérifier, donc ce que je vous dis est vrai. Donc le journaliste demande à David, mais en quoi consistent les activités des groupes bibliques universitaires? Qu'est-ce que vous faites pour attirer les étudiants finalement? Et là, David répond, peut-être différemment, bon, les étudiants s'assoient autour d'une table, ils nous ouvrent un livre qu'on appelle la Bible, ils lisent la Bible, ils en discutent un peu, ils mangent un carambar et puis ils s'en vont. Hein. Le journaliste dit, ok, mais c'est tout? Vous devez bien organiser des événements plus attrayants, non, pour attirer les jeunes. David réfléchit. Ah oui. Une fois par mois, on organise une soirée crêpe. Et là, je sors de l'histoire. C'est moi qui imagine. J'imagine le journaliste rentrer à la rédaction d'M6, frapper au bureau de son chef, de son rédacteur en chef, lui dire, écoute, les GBU. Comment dire, et leur Jésus là, laisse tomber quoi. Ils chassent pas de démons, ils marchent pas sur les eaux, ils ressuscitent pas les morts. Franchement, ça fait vraiment pas de mine. Faiblesse assurée quoi. Peut-être. Mais est-ce que vous saviez que le GBU, présent dans combien de pays dans le monde? 3524 entre 155 et 157, que les groupes bibliques universitaires qui existent dans beaucoup de pays, connus sous le nom d'International Fellowship of Evangelical Students dans certains pays, ABU au Brésil, Christian Union en Angleterre, InterVarsity aux États-Unis, AFES, l'AFES en Australie, ouais, c'est comme ça, je suis désolé, hein. AFES, c'est, bref. Est-ce que vous saviez que le GBU, fondé par 4 jeunes filles à Aix-en-Provence, quelle année? 1943, j'ai 4 jeunes filles à Aix-en-Provence en 1943, est devenu ce mouvement national, international dont nous parlons, et qui a permis à plusieurs étudiants, devinez quoi, de devenir chrétiens. J'en suis la preuve vivante. Vous en êtes peut-être la preuve vivante. Vous êtes peut-être devenu chrétien au GBU en France. Moi, c'était en Angleterre. Mais le Seigneur a peut-être utilisé ce faible moyen que sont les GBU pour vous attirer à lui. Est-ce que vous savez qu'en plus, ces GBU ont fourni aux églises des membres formés à la prise de responsabilité dont vous faites peut-être partie, vous êtes peut-être en train de mettre au service de votre église ce que vous avez appris au GBU, la méthode OIA par exemple, dans votre groupe de jeunes, je ne sais pas. Alors vous allez me dire que vous faites peut-être partie de petits groupes locaux composés de 3 ou 4 personnes. Vous vous réunissez peut-être dans un couloir sombre de votre université à l'époque, à Sancy, on se réunissait dans l'escalier, il faisait froid, on avait faim, il n'y avait pas de cafards, mais c'était pas terrible. L'espérance de vie de vos affiches, si vous êtes à Lyon et sur le campus de Bron, est peut-être de 30 secondes. Vous retrouvez peut-être vos tracts par terre ou à la poubelle après les avoir distribués, ou peut-être on vous crache sur vos tracts, on vous crache dessus peut-être. Ça m'est pas arrivé, mais ça arrive à quelqu'un. Vous vous sentez peut-être insignifiant. Méprisé, faible. On vous a demandé de prendre la responsabilité d'un GBU cette année, vous flippez, parce que vous dites, mais qui suis-je pour être responsable d'un GBU cette année? Qui suis-je? Vous savez quoi? Est-ce que vous avez conscience, mes amis, que cette faiblesse est votre plus grande force? C'est votre plus grande force. Est-ce que vous avez conscience que ce qui est vrai de l'œuvre de Dieu au travers de son serviteur, la puissance dans la faiblesse, est vrai de son œuvre au travers de ses serviteurs, au travers de vous, si vous décidez de le servir, vous comprenez? Ce qui est vrai de l'œuvre de Dieu au travers de son serviteur, la puissance dans la faiblesse, est vrai au travers de l'œuvre de Dieu, au travers de vous, ses serviteurs. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand nous sommes faibles, dira l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, c'est alors que nous sommes forts. La puissance s'accomplit dans la faiblesse, au travers d'hommes et de femmes qui ne sont peut-être pas nécessairement des super-héros de la foi, qui ne se sentent peut-être pas capables d'être responsables d'un GBU cette année, mais qui ont simplement confiance confiance en la puissance, en un Dieu puissant, et qui ont à cœur de lui obéir. Est-ce que vous connaissez ce livre ? Est-ce que vous connaissez cette personne ? Johnny Tada Erickson. J'ai trouvé ce livre dans une poche en plastique à Lyon cette année, et je dois vous avouer que la couverture ne m'a pas encouragé à la lecture de ce livre. C'est une couverture un peu jaunie. C'est pas grave. Merci, Johan. J'aimerais vous lire quelques phrases qui m'ont véritablement ému aux larmes. Si vous ne savez pas quel livre lire cette année, à part la Croix de Christ, si vous avez besoin d'un témoignage, d'une biographie, lisez ce livre, mes amis. Je vous en supplie, lisez-le, ça prend quelques heures. J'aimerais simplement vous lire l'épilogue de ce livre, quelques phrases. Johnny Tada Erickson, donc, qui est devenu paralysé de la nuque aux pieds suite à un accident de plongée. Et voilà son livre, elle en a écrit beaucoup depuis. Ne serait-ce pas extraordinaire si en cet instant, devant vous, j'étais miraculeusement guéri. Si je quittais mon fauteuil roulant et me tenais sur mes pieds. Quel miracle ! Nous serions tous remplis d'admiration et de louanges. Chacun de nous pourrait l'attester personnellement. Nous aurions vu la merveilleuse puissance de Dieu à l'œuvre. Ne serait-ce pas palpitant ? C'est ce que je disais à un auditoire de 1600 jeunes. Je me tue, laissant se représenter la scène. Puis j'ai poursuivi. Mais bien plus extraordinaire et admirable serait le miracle de votre salut, la guérison de votre âme. Vous comprenez, il serait infiniment plus beau, puisqu'il aurait ses effets pour toujours. Si mon corps était soudainement et miraculeusement guéri, je retrouvais l'usage de mes membres pour 30 ou 40 ans. Puis mon corps mourait, mais mon âme vit pour l'éternité. Du point de vue éternel, mon corps ne durera qu'un clin d'œil. Au cours des mois qui suivirent le voyage à Chicago, je commençais à considérer mon fauteuil roulant comme un outil permettant de toucher les élèves dans les classes. De nombreux jeunes se donnèrent à Christ après m'avoir entendu. Cela aussi était quelque chose de meilleur. Je comprenais pourquoi l'apôtre Paul pouvait se réjouir dans la souffrance, pourquoi Jacques exhortait à regarder les tribulations comme un sujet de joie, et pourquoi Pierre ne trouvait pas étrange que la foi fût mise à l'épreuve. Toutes ces afflictions et ces difficultés avaient finalement des résultats positifs à la louange, à l'honneur et à la gloire de Dieu. Vous vous sentez faible ? Si tel est le cas, considérez, mes amis, votre fauteuil roulant, vos béquilles, toute autre faiblesse, tout autre handicap, comme une puissance, comme la puissance de Dieu, un outil vous permettant de témoigner. Est-ce que vous comprenez que votre faiblesse, quelle que soit sa nature, est en fait votre plus grande force, et que ça va permettre à Dieu de manifester sa puissance au travers de vous, de révéler son salut, son bras, l'évangile, à tous ceux qui ne croient pas. Nous pouvons avoir confiance en sa puissance. Jésus règne, toute autorité lui a été confiée sur la terre et dans les cieux. C'est ma cinquième et dernière année. En tant que sire au GBU, en 5 ans, j'ai vécu des moments très encourageants. Je me rappelle, j'étais dans cette même salle il y a 4 ans lors d'un week-end de sortie et nous avions invité une jeune étudiante chinoise à venir et je ne savais pas si elle était chrétienne ou pas, donc j'étais un peu gêné. Lors d'un moment de ce qu'on appelle un culte, en fait, on nous a demandé de prier à haute voix. J'étais un peu gêné et là, pour, je dirais, cacher mon embarras, j'ai voulu prier et celle qui m'a devancé était devenue chrétienne. Oh, Seigneur, mon plus beau souvenir. Elle était devenue chrétienne. Peut-être pas à cet instant, peut-être quelques jours auparavant. J'ai vécu des moments vraiment très encourageants, mais aussi des moments très décourageants qui m'ont parfois fait douter de la capacité de Dieu à manifester la puissance de l'évangile en France. Je me disais, je pensais secrètement, peut-être faut-il aller à l'étranger, en Afrique, en Argentine, au Brésil, pour voir des centaines, des milliers de personnes se convertir, pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ce monde. Mais j'ai fait un rêve. Je m'arrêterai là. J'ai fait un rêve. Vous voulez savoir ce que c'est ? Je vous le dis aujourd'hui, mes amis, bien que nous devions faire face aux difficultés et aux frustrations du moment, j'ai tout de même fait un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve GBUtien. Je fais le rêve qu'un jour, tous les GBUtiens se lèvent et vit la vraie signification de leur croyance. Nous tenons ces vérités comme évidentes, que la Bible est la parole de Dieu. Que Dieu parle au travers de sa parole. Et que le moyen le plus efficace pour laisser Dieu parler dans sa parole est la méthode OIA. Ou COCA. Contexte, observation, compréhension, application. Je fais le rêve qu'un jour sur les collines de France et de Navarre, les chrétiens et les anciens athées communistes du campus de Bron pourront s'asseoir ensemble à la table de la communion fraternelle. Je fais le rêve qu'un jour même les universités les plus hostiles à l'évangile, Marne-la-Vallée par exemple, les GBU seront reconnues en tant qu'associations officielles et auront le droit d'exister. J'ai fait un rêve qu'un jour nous verrons la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre pays, dans nos universités, dans la vie de nos amis. Et si Dieu est un grand Dieu, et si nous avons confiance en sa puissance, en son serviteur, pour attirer le plus grand nombre d'étudiants à lui, ceci, c'est ce qui doit se faire. Est-ce que vous voulez rêver avec moi? Et prier. On prie? Prenons quelques secondes pour réfléchir à ce que nous avons vu dans ces versets d'Ésaïe. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Le peuple n'a pas cru en raison d'un serviteur inconsidéré, un serviteur apparemment insignifiant. Le serviteur a été inconsidéré, mais la puissance de Dieu s'est bel et bien manifestée au travers de lui. Notre Dieu, notre Père, nous confessons que tu es Dieu et que nous ne le sommes pas. Tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voix ne sont pas nos voix. Ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous te remercions pour ton serviteur, un serviteur apparemment insignifiant et inconsidéré, mais au travers duquel tu as pourtant accompli ta puissance. Un serviteur crucifié, percé pour nos péchés, qui fait partie intégrante de ton plan de salut pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés et placent leur confiance en lui. Nous prions que tu viennes au secours de notre incrédulité, que tu nous aides à avoir confiance en ta puissance qui s'accomplit dans notre faiblesse, en l'Évangile, qui est ta puissance pour le salut de quiconque croit. C'est au nom de Jésus que nous prions.